1 Corinthiens 6, 9,10. Puis vient la troisième de ces fonctions dans laquelle la vitalité du corps se déploie, l'instinct de la préservation personnelle, qui s'élève contre tout ce qui pourrait gêner nos plaisirs ou notre confort. Ce qu'on appelle le caractère, avec ses fruits mauvais de colère, cancer et de division, a sa racine dans la constitution physique et doit être classé parmi les péchés de la chair. Le chrétien doit croire que le Saint-Esprit habite dans le corps, afin de faire des membres du corps les membres de Christ, et, dans cette foi, il doit rejeter les œuvres de la chair, il doit se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. De même que la source de toutes les souillures de la chair est la satisfaction de ses propres désirs, de même la recherche de soi-même est, à la base de toute souillure de l'esprit. Dans les rapports avec Dieu, cette souillure se manifeste sous la forme de l'idolâtrie. Que ce soit par le culte d'autres dieux, d'idoles que notre cœur s'est créé, ou par l'amour du monde qui prend la place de l'amour de Dieu, ou encore en choisissant notre volonté, plutôt que celle de Dieu. Dans les rapports avec le prochain, la souillure de l'esprit se montre par l'envie, le manque d'amour, la haine, la négligence froide, glaciale, ou le jugement sévère porté sur autrui. Dans ses relations avec nous-mêmes, on la voit sous la forme de l'orgueil, de l'ambition, de l'envie encore, de la disposition qui fait du moi le centre, autour duquel tout doit tourner et par qui tout doit être jugé. Même les péchés dont nous n'avons pas conscience, si nous ne sommes pas sérieux dans notre désir qu'ils nous soient révélés, empêcheront très sûrement nos progrès dans la sainteté. Bien-aimés, purifions-nous. La purification est quelquefois indiquée comme étant l'œuvre de Dieu, acte 15, 9, 1 Jean 1, 9, quelquefois aussi comme l'œuvre de Christ. Jean 15, 3 Éphésiens 5, 27 2, 14 Ici, nous sommes exhortés à nous purifier nous-mêmes. Dieu fait son œuvre en nous par le Saint-Esprit fait son œuvre en nous excitant, à agir et en nous rendant capables de le faire. L'Esprit est la force de la vie nouvelle, dans et par cette force, nous devons nous mettre d'une manière bien décidée à rejeter tout ce qui est souillé. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Ésaïe 52, 11 Le contact involontaire avec ce qui est souillé doit nous être si insupportable qu'il nous force à pousser ce cri « Malheureux que je suis !» et nous conduire à la délivrance que l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, nous apporte. Et comment cette purification doit-elle avoir lieu? Lorsque Échia appela les prêtres de l'Éternel à sanctifier le temple qui avait été souillé par la présence des idoles et par le culte qui leur était rendu, de CH 29 il leur dit « Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Et les prêtres entrèrent dans la maison de l'Éternel pour la purifier, ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel. Ce n'est qu'alors que le sacrifice d'expiation pour le péché et l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce purent être apportés et que le service de l'Éternel put être rétabli. De la même manière, tout ce qui est souillé doit être soigneusement examiné, mis en lumière et absolument rejeté. Quelque profondément que le péché paraissent enracinés dans notre constitution et nos habitudes, nous devons nous en purifier si nous voulons être saints. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Venons à la lumière avec notre péché, et le sang prouvera sa puissance purifiante. Purifions-nous en nous livrant nous-mêmes à la lumière, qui révèle et qui condamne le péché, et au sang pour qu'il purifie et qu'il sanctifie. Purifions-nous en achevant l'œuvre de notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous lisons dans Hébreux, Hébreux 10, 14 Christ a amené, pour toujours à la perfection ceux qui ont été sanctifiés. Comme nous avons déjà souvent vu que ce que Dieu a sanctifié, l'homme doit aussi le sanctifier en acceptant et en s'appropriant la sainteté que Dieu lui a accordée, il en doit être de même de la perfection que les saints ont en Christ. Nous devons achever la sanctification, la sainteté doit être développée dans la vie entière, et poursuivie jusqu'au bout, car, en tant que nous sommes les saints de Dieu, nous devons arriver à la perfection, achevant notre sanctification. Ne nous laissons pas effrayer par ce mot. Notre Seigneur l'a employé quand il nous a donné le commandement, « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Le Maître nous appelle à une perfection semblable à celle du Père, il nous a déjà rendus parfaits en lui, et il met devant nous la perspective d'une perfection qui va toujours croissant. Sa parole nous appelle maintenant à achever, jour après jour, notre sanctification. Que dans l'accomplissement de chaque devoir, nous nous y adonnions de tout notre cœur et sans réserve. que, comme des écoliers dociles, nous fassions dans tout acte de culte et d'obéissance, dans toute tentation et dans toute épreuve, ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne à faire. Que l'ouvrage de la patience soit parfait, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Jean 4 Que le Dieu de paix vous rende parfait, en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Puis, donc que nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant l'œuvre de notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est la foi qui donne le courage, et la force de se purifier de toute souillure et d'achever la sanctification dans la crainte de Dieu. C'est dans la mesure où les promesses de l'amour divin et de l'habitation de Dieu en nous sont faites nôtres par le Saint-Esprit, que nous pouvons être faits participants de la victoire qui a vaincu le monde, savoir, notre foi. Dans le chemin que nous avons suivi du repos de l'Éden jusqu'ici, à travers toute l'Écriture sainte, nous avons vu la merveilleuse révélation de ces promesses dans une splendeur qui n'a fait que grandir, que Dieu, le Saint, veut nous sanctifier, que Dieu, le Saint, veut demeurer chez celui qui est humble de cœur, que Dieu, dans son bien-aimé, le Saint, est venu pour être notre sainteté, que Dieu nous a créés en Christ, afin qu'il fût notre sanctification, que Dieu, qui nous a élus pour la sanctification de l'Esprit, a mis son Esprit dans nos cœurs, qu'il veille maintenant sur nous, dans son amour, pour opérer en nous par cet Esprit son dessein, et pour achever notre sanctification. Telles sont les promesses qui ont été placées devant nous. Puis donc que nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Seigneur Jésus, toi le Saint, tu t'es donné toi-même pour nous, nous ayant purifiés, pour toi comme ta propriété, afin que tu puisses nous sanctifier et nous présenter à toi-même comme une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que ton nom soit béni pour ton amour infini. Que ton nom soit béni pour cette merveilleuse purification. Par le lavage de ta parole et de ton sang, tu nous as entièrement purifiés. Et quand nous marchons dans la lumière, tu nous purifies sans cesse. Avec ces glorieuses promesses que tu nous as faites, et dans la puissance de ton œuvre et de ton sang, tu nous appelles à nous purifier nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ô Sauveur béni, révèle-nous, dans ta miséricorde et par ta sainte lumière, tout ce qui est souillure en nous, même l'action la plus secrète de cette souillure. Que, sous la puissance vivifiante de ta parole et de ton sang, puissance appliquée à mon âme par le Saint-Esprit, ma voix soit pure, mes mains soient pures, mes lèvres soient pures, mon cœur soit pur. Purifie-moi complètement afin que je puisse marcher avec toi en vêtements blancs, déjà ici-bas, gardant ces vêtements sans tache et sans souillure. Fais cela, bien-aimé Sauveur, pour l'amour de ton grand nom. Amen. La purification a presque toujours un but, un vase purifié et propre à être employé. Un travail spirituel, fait pour le Seigneur, avec le sincère désir, que le Seigneur nous emploie pour lui, rendra urgent notre désir de purification. Un vase non purifié ne peut être employé, n'est-ce peut-être pas là la raison, pour laquelle il y a des travailleurs, que Dieu ne peut bénir? De toute souillure, une tache suffit pour souiller? Purifions-nous de toute souillure? Trois points de purification sans lumière. Ouvrons notre cœur pour que la lumière y pénètre. 4. Aucune purification n'égale celle produite par le feu. Livrez la souillure au feu de la sainteté de Dieu, qui est un feu qui consume et purifie. Livrez-la à la mort de Jésus, à Jésus lui-même. 5. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La lumière révèle le péché, nous le confessons et nous le délaissons, et nous acceptons le sang, ainsi nous nous purifions. Soyons bien fermement déterminés à nous purifier de toute souillure, de tout ce que notre Père Céleste considère comme une tache. Saint en Christ, 25e jour, saint et irrépréhensible, vous êtes témoin, et Dieu l'est aussi, combien la conduite que nous avons tenue, envers vous qui croyez a été sainte, juste et irrépréhensible. 1 Thessaloniciens 2, 10. C'est en Christ qu'il nous a élus, avant la fondation du monde pour être saints, et parfaits devant lui dans son amour. Éphésiens 1, 4, 1 Thessaloniciens 3, 12,13. Il y a deux mots grecs, qui signifient à peu près la même chose, et qui sont constamment employés avec le mot saint, et le suivent pour exprimer ce que devra être le résultat et l'effet de la sainteté telle, qu'elle se manifeste dans la vie visible. L'un est traduit par sans tache, sans flétrissure et est toujours employé pour parler de notre Seigneur et de son sacrifice, l'agneau sans tache. Hébreux 9, 14, 1 Pierre 1, 19. Ensuite, il est employé en parlant des enfants de Dieu, et cela avec le mot saint, saint et parfait, ou saint et irrépréhensible, Éphésiens 1, 4, 5, 27 sans tache et sans reproche, Colossiens 1, 22 irréprochable et pur, Philippiens 2, 15 Jude 1, 24, 2 Pierre 3, 14 l'autre est irrépréhensible, sans défaut, Luc 1, 6 Philippiens 2, 15, 3, 16 et il se trouve aussi en rapport avec le mot saint, 1 Thessaloniciens 2, 10, 3, 13 une sainteté parfaite. 1 Thessaloniciens 4, 2,3 quant à la question de savoir si cette irrépréhensibilité a rapport à l'estimation que Dieu fait de ses saints, ou à celle que font les hommes, l'Écriture dit clairement qu'il s'agit de l'une et de l'autre. Dans quelques passages, comme Éphésiens 1, 4, 5, 27, Colossiens 1, 22, 1 Thessaloniciens 3, 13 les mots devant lui, pour lui-même, devant Dieu, notre Père indique bien que la première pensée est l'irrépréhensibilité, la perfection, en présence d'un Dieu saint, irrépréhensibilité qui est placée devant nous comme le but que Dieu se propose à notre égard, et notre privilège. Dans d'autres, comme Philippiens 2, 15, 1 Thessaloniciens 2, 10 l'irréprochabilité devant les hommes est placée au premier rang. Dans les deux cas, le mot peut être considéré comme renfermant les deux aspects de la pensée, irrépréhensible, irréprochable, sans défaut et sans tache. Cette situation doit pouvoir soutenir la double épreuve du jugement de Dieu et du jugement des hommes. Et quelle est la leçon spéciale? Que la liaison de ces deux mots ensemble dans l'Écriture et l'exposition du mot saint avec celle d'irrépréhensible est destinée à nous enseigner? Une leçon d'une très grande importance. Dans la poursuite de la sainteté, plus le croyant réalise distinctement quelle immense bénédiction il possède d'être trouvé en Christ, séparé du monde et en communion directe avec Dieu, de n'être pleinement possédé que par une réelle habitation de Dieu en lui, le croyant, dis-je, risque de regarder trop exclusivement au côté divin de la bénédiction qui lui a été acquise, à son aspect céleste et surnaturel. Il peut oublier combien la repentance et l'obéissance, comme sentier qui conduit à la sainteté, doit embrasser tous les détails les plus minutieux de notre vie journalière. Il peut surtout ne pas avoir appris que c'est, non seulement l'obéissance à ce qu'il sait être la volonté de Dieu, mais une bonne volonté docile et prête à recevoir tout ce que l'Esprit a à lui enseigner et à lui montrer, soit de ses imperfections, soit de la volonté du Père à son égard, qui est la condition essentielle pour que la sainteté de Dieu puisse nous être plus complètement révélée à nous et en nous. Et ainsi, tout en étant fortement appliqué à découvrir le secret d'une sainteté vraie et complète du côté de Dieu, il se peut qu'il tolère des défauts que tout le monde autour de lui remarque ou qu'il reste ignorant, et cela non point innocemment, parce que toute ignorance, ici vient d'un manque de parfaite docilité aux grâces et aux beautés de la sainteté dont le Père aurait voulu le voir orné devant les hommes. Il peut chercher à vivre très saintement sans se préoccuper suffisamment d'une vie parfaitement irrépréhensible. Il y a eu de pareils saints, saints, mais durs, saints, mais réservés et froids, saints, mais tranchants dans leur jugement, saints, mais dont l'entourage dit qu'ils sont égoïstes, sans amour. Le Samaritain, demi-païen, se montrant plus compatissant, plus prêt à un sacrifice de ses aises, que le saint Lévite et que le sacrificateur. Si cela est vrai, ce n'est pas à l'enseignement de la Sainte Écriture que nous pouvons en faire un reproche. En reliant-y intimement ces deux pensées saintes, et irrépréhensible ou sans reproche, le Saint-Esprit nous aurait conduit à chercher la personnification de la sainteté, comme puissance spirituelle dans l'irrépréhensibilité de la pratique et de la vie journalière. Que tout croyant qui se réjouit de la déclaration que Dieu lui a faite qu'il est saint en Christ, cherche aussi à achever sa sanctification, ne se contentant de rien moins que d'une sainteté irrépréhensible. Or, que cette irrépréhensibilité est très spécialement trait à nos relations avec nos frères, nos semblables, nous le voyons par la manière avec laquelle elle est liée avec l'amour. Ainsi Éphésiens 1, 4 pour être saint et parfait devant lui, dans l'amour. Mais c'est surtout dans ce remarquable passage, puisse le Seigneur vous faire croître et abonder en charité les uns pour les autres et pour tous les hommes, afin d'affermir vos cœurs de manière à ce qu'ils soient d'une sainteté parfaite devant Dieu, notre Père. 1 Thessaloniciens 3, 12,13 la sainteté et l'irrépréhensibilité, le principe positif de la vie divine est caché, et la pratique de cette vie dans la vie extérieure et humaine doivent trouver leur force dans une charité qui abonde et déborde sans cesse de notre part. Sainteté et charité, il est de la plus haute importance que ces deux mots soient inséparablement unis dans notre esprit, comme leur réalité dans nos vies. Nous avons vu dans l'étude de la sainteté de Dieu combien l'amour est l'élément dans lequel elle se meut et agit, attirant à elle et formant à son image tout ce dont elle peut prendre possession. L'amour est la flamme du feu de la sainteté divine, flamme qui cherche à se communiquer et à s'assimiler tout ce dont elle peut se saisir. Il en est de même de la vraie sainteté. Chez les enfants de Dieu, le feu divin brûle et cherche à communiquer son action bénie à tout ce qu'il peut atteindre. Lorsque Jésus se sanctifia afin que nous fussions sanctifiés dans la vérité, ce n'était pas autre chose que l'amour se livrant lui-même à la mort, afin que le pécheur devint participant de la sainteté de Dieu. Égoïsme et sainteté sont inconciliables. L'ignorance peut s'imaginer que la sainteté est un vêtement dont le moi peut se parer devant Dieu, tandis qu'il y a au fond un orgueil égoïste qui dit « Je suis plus saint que toi » et qui est content de ce que les autres sont privés de ce dont ils se vantent. La vraie sainteté, au contraire, est l'expulsion et la mort de l'égoïsme, elle prend possession du cœur et de la vie et en fait des serviteurs, cet amour qui se consume pour atteindre, purifier et sauver les autres. La sainteté est amour. Un amour abondant, voilà ce que Paul demande comme condition d'une sainteté irrépréhensible. C'est dans la mesure où le Seigneur nous fait croître et abonder dans l'amour, qu'il peut établir dans nos cœurs une sainteté irréprochable. L'apôtre parle d'un double amour, l'amour des uns pour les autres, et l'amour pour tous les hommes. L'amour pour les frères est cet amour que le Seigneur recommande comme marque distinctive des disciples de celui qui est amour. Et il prie son Père que cet amour soit dans les siens comme une preuve évidente aux yeux du monde de la vérité de sa divine mission. C'est dans la sainteté de l'amour, dans une sainteté qui aime, que l'unité du corps de Christ sera rendue évidente, sera développée et préparée, pour une action plus complète du Saint-Esprit. Dans les épîtres aux Corinthiens et aux Galates, les divisions et l'éloignement entre croyants sont indiquées comme preuves certaines de la vie du moi et de la chair. Oh ! Si nous voulons être saints, commençons par être pleins de douceur, patients, miséricordieux, prêts à pardonner, bons et généreux dans nos rapports avec tous les enfants du Père Céleste. Étudions l'image divine de l'amour, qui ne cherche point ses propres intérêts, et prions le Seigneur qu'il nous fasse sans cesse abonder dans l'amour les uns pour les autres. Le plus saint devra être le plus humble, le plus désintéressé, le plus débonnaire et le plus soucieux des autres, et cela pour l'amour de Jésus. Revêtez-vous, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'une tendresse compatissante, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, surtout, revêtez-vous de la charité, c'est le lien de la perfection. Colossiens 3, 12-14. Puis, l'amour pour tous les hommes, un amour que l'on voit dans la conduite et dans les rapports de la vie journalière, un amour qui non seulement évite la colère sincère, la mauvaise humeur, les jugements sévères, mais qui montre les vertus plus positives du dévouement actif, pour le bien-être et les intérêts de tous. Un amour charitable, qui a soin du corps aussi bien que de l'âme, un amour qui est prêt, non seulement à venir au secours, partout où le secours est requis, mais encore qui se donne réellement, qui renonce à soi-même, qui est prêt au sacrifice, pour chercher, pour soulager les besoins des plus misérables et des plus indignes. Un amour, enfin qui prenne l'amour de Christ, cet amour qui l'a fait quitter le ciel et choisir la croix pour nous, comme sa seule loi, sa seule règle de conduite, et qui subordonne toute chose au bonheur de donner, de faire du bien, d'embrasser dans ses liens, et de sauver celui qui est dans le besoin, celui qui est perdu. Abondant dans l'amour, nous serons irrépréhensibles dans la sainteté. C'est en Christ que nous sommes saints, de la part de Dieu nous sommes en Christ, qui nous a été fait sanctification. C'est dans cette foi que Paul prie le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous fasse croître et abonder dans l'amour. Le Père est la source, Jésus le canal, le Saint-Esprit, le fleuve de vie. Christ est notre vie par le Saint-Esprit. C'est par la foi en lui, c'est en demeurant en lui et en son amour, en laissant, dans une communion intime avec lui, le Saint-Esprit répandre abondamment l'amour de Dieu dans notre cœur, que nous recevrons une réponse à notre prière, et que nous serons rendus par lui irrépréhensibles en sainteté, que ce soit pour nous une prière de foi, qui se change en un chant de louange. Loué soit le Seigneur, qui veut nous faire croître et abonder dans l'amour, et qui veut nous rendre irrépréhensibles en sainteté devant Dieu, notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Soyez saints, car je suis saint. Dieu miséricordieux et Père, je te remercie encore pour ce merveilleux salut, par la sanctification de l'Esprit, qui nous a rendus saints en Christ.